Bonjour à tous, chers auditeurs, il est 10h05 à la pendule de Radio Canu et comme tous les dimanches de 10 à 12, c'est l'émission Musique, etc. qui débute. Musique, etc., une émission musicale de Radio Canu. Alors de 11 à 12, tout à l'heure, je recevrai les rappeurs Keblux et Crass, mais pour l'instant, c'est la première partie et donc de 10 à 11, je reçois le chanteur Frédéric Bobin qui vient pour la troisième fois dans l'émission. Frédéric Bobin, bonjour et bienvenue à Radio Canu.
Bonjour Guillaume, merci et de merci, ton accueil.
Et merci de venir dans des circonstances un peu étranges.
Et oui, c'est vrai que c'est le moment où on ressort un peu de chez nous. Donc.
Ouais, et donc ça me fait très plaisir que tu reviennes dans l'émission.
Moi aussi.
Bon, peut-être qu'on va partir du principe que peut-être les auditeurs n'ont pas les deux dernières émissions en tête, sachant aussi qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais partons du postulat qu'on ne te connaît pas.
Ouais.
Qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots pour te présenter avant qu'on écoute peut-être une première chanson?
Exercice difficile.
Ouais, c'est
dès le matin comme ça.
Même, ouais.
Je fais de la chanson depuis bien longtemps, ça fait 15 ans que j'en fais mon métier.
Depuis... Oui, à noter, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ton métier. Hein.
Ouais, c'est mon métier depuis, je dis 15 ans, mais ça fait un peu plus, je crois. En fait, ça correspond à mon arrivée à Lyon. En 2003, je débarque dans cette ville et je venais de Dijon, là où j'ai fait mes études. Et en 2003, donc, je débarque à Lyon et je m'aperçois que la scène lyonnaise est très vivante, en fait, en termes de chansons. Et moi, j'avais déjà mes chansons, j'avais fait deux, trois café-concerts à Dijon. Et puis c'est vraiment lors de mon arrivée à Lyon où j'ai pu tisser, si tu veux, mon réseau, faire des rencontres et j'ai pu m'exprimer dans des petits lieux que l'on connaît bien, hein, les Agendar à tout bout de champ, la salle des Rancis, qui sont des lieux très vivants de la scène chanson à Lyon. Et puis à partir de là, j'en ai fait mon métier relativement rapidement. Et pour évoquer un peu mon style, même si c'est toujours très difficile de le faire, je fais de la chanson française, donc où le texte est forcément important,
ouais.
Mais avec des couleurs un peu folk, on va dire. Je suis très influencé par la musique américaine folk rock.
Ouais, folk rock, de la chanson, ouais, française folk rock, on peut dire, parce que
exactement.
Il y a des chansons qui sont lentes et douces, mais
oui,
quand même, il y a des chansons qui avancent, qui sont assez punchy aussi. Il y a une veine rock dans pas mal de chansons.
Ouais, c'est ça. On peut pas dire que ça soit vraiment du rock à proprement parler,
oui,
mais il y a une sensibilité rock, on va dire. Il y a un journaliste récemment qui a comparé mon univers à celui d'Yves Simon et c'était pas très évident pour moi de faire le rapprochement, mais à la réflexion, j'ai trouvé ça très très pertinent, avec le côté folk, balade, et puis des textes un peu littéraires, on va dire, sans que ce soit trop cérébral, mais en tout cas, il y a une volonté quand même d'avoir des textes un peu littéraires, ouais.
Donc on développera ça peut-être tout au long de l'émission, mais le mieux, je pense, pour les auditeurs, c'est d'envoyer une première chanson. Alors on va écouter, je pense qu'on va voyager sur tes trois derniers albums, mais là on va écouter une chanson de ton tout dernier album qui s'appelle Les Larmes d'Or, et donc on va écouter la chanson qui ouvre le disque, elle s'appelle Le Soir Tombe, et donc c'est Frédéric Bobin sur Radio Canu.
Le soir tombe et je n'ai pas changé le monde. J'ai laissé passer les cigognes, distraits par de vagues besognes. J'aurais tant voulu être bon, m'en aller comme un vagabond, arroser les terres brûlantes, accélérer les valses lentes. Le soir tombe, j'ai flâné dans les rues profondes. Et j'ai vendu la peau de l'ours, je n'ai pas su trouver la source. J'aurais tant voulu être utile, interrompre le bruit des villes, écouter le cœur des saisons, mettre du bleu sur l'horizon. Peu les ombres s'allongent. Je n'ai pas changé l'eau des fleurs, je n'ai pas mis ma montre à l'heure. J'aurais tant voulu affaiblir les voix qui règnent sur les empires, chanter pour les hommes oubliés, briser le verre des sabliers. Restera-t-il de nos peines, de nos espoirs, de nos je t'aime? J'ai laissé au bord du sentier quelques poèmes inachevés. Si tu viens les cueillir demain, je veillerai jusqu'au matin. Je veillerai jusqu'au matin.
Frédéric Bobin avec la chanson Le soir tombe, extrait de son dernier album Les Larmes d'or. On peut évoquer cette chanson si tu veux bien, Frédéric Bobin. En fait, c'est une chanson qui peut paraître un peu, ce qu'on s'était dit la dernière fois, comme un constat d'échec, mais
oui.
Il y a quand même une ouverture, je sais pas.
Ouais, c'est une chanson bilan, on pourrait dire. J'avais envie d'évoquer la transmission, en fait. La transmission et l'héritage. Et aussi la question de ce qu'on laisse, en fait, de notre passage, quoi. Voilà, donc c'est un grand thème classique, hein, et puis des questions un peu métaphysiques comme ça, mais j'ai voulu traduire simplement dans cette chanson en comparant finalement une vie à une journée, quoi, et en se disant à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, quoi, qu'est-ce que je vais laisser. Et puis c'est vrai que l'ouverture dont tu parles, elle intervient à la fin, là, où il y a la question de l'héritage, ce qu'on laisse, en fait, ce qu'on va laisser aux générations futures, quoi. J'ai une fille qui a une dizaine d'années, et j'ai une quarantaine d'années, moi, et je commence à me poser ce genre de questions, quoi.
Ouais, puis la transmission, c'est quand même une, ça fait partie de ta démarche artistique,
ouais,
quand même, dans
vraiment, ouais.
Une volonté de. Il y a un côté passeur.
Ouais, vraiment.
Toutes les chansons.
Ah, écoute, c'est un mot qui me parle, en tout cas. Et moi, je trouve que le média chanson, en plus, il est vraiment très adapté à ce lien en fait social qu'on tisse avec les gens, et puis à cette dimension de passeur. J'ai l'impression vraiment d'être là-dedans quand je suis en tournée, quand je fais des concerts, quand je fais des rencontres, et de d'être un maillon en fait de la chaîne, finalement, humblement, hein, mais avec tout ce qui précède et puis tout ce qui va venir derrière, quoi.
Après, avec aussi dans toutes les chansons, il y a une chanson qui est très dure, la plus dure, je pense que c'est peut-être Pyramide.
Ouais.
de tout ton répertoire. Je sais pas si on aura le temps de l'écouter, mais après il y a quand même toujours un côté baume, remède, c'est ce qu'on disait la dernière fois, et quand même quelque chose d'assez lumineux dans toutes tes chansons, même s'il y a des chansons tristes.
Hein. Oui, mais écoute, je dois dire que ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que j'ai parfois l'impression de si tu veux d'assumer ma veine mélancolique et parfois sombre. Et ça, c'est quelque chose que j'assume vraiment de plus en plus, hein, pleinement, au fil des albums. Même si sur scène, il y a l'énergie de la musique, et puis il y a la présence scénique, qui est effectivement, je pense, assez lumineuse. Donc ça compense les thèmes graves que je peux aborder. La pyramide, en effet, c'est une chanson presque nihiliste, hein, puisque c'est une chanson qui se termine pas sur une ouverture positive, mais c'est ce que j'avais envie de traduire. En tout cas, le fait que tu me dises que c'est plutôt lumineux dans l'ensemble, ça me fait plutôt plaisir. Ouais.
Après aussi, j'ai mangé ma question, mais oui, ce qu'on disait la dernière fois. Oui, voilà, j'arrive. Par exemple, tu avais notamment pas mal écouté Barbara Ferret.
Ouais.
C'était des choses qui te permettaient à l'époque, en fait, c'était un écho à ta propre mélancolie d'adolescent.
Adolescente, exactement, ouais.
Et après, on s'était dit aussi que c'était quand même, par contre, des gens qui, eux, par contre, n'hésitaient pas à être quand même dans du nihilisme. Mais toi, même si, bon, tu fais peut-être pas partie de cette famille-là de la chanson française, quoi.
Bah, si tu veux, c'est quand même un pan de la chanson qui m'a beaucoup influencé. Donc, notamment quand j'étais adolescent, ce que tu disais, j'écoutais beaucoup Brel, Ferré, Barbara, Brassens. Bah, même si Brassens c'est un peu plus léger, mais quand même. Et donc, je me sens quand même appartenir un petit peu à cette famille. Mais il y a aussi cette autre famille qui est quand même un peu plus pop, on va dire. Il y a les Beatles, il y a les Stones, il y a des choses comme ça. Et puis pour parler des gens dont le texte était aussi important, ben je pense à Dylan, je pense à Neil Young, à des gens comme ça, à Cohen. Et malgré tout, ces gens, il y a une lumière quand même, je trouve. Chez Dylan, par exemple, il y a toujours un élan, quoi. Il y a un truc... alors je sais pas si c'est propre aux Américains, mais il y a un truc de fou, quoi. C'est Springsteen aussi, j'aime beaucoup, dans son approche musicale, mais textuelle aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours une foi, quoi. Il y a un truc très profond qui... il y a une lumière, en fait. Et c'est peut-être ça, ce paradoxe, il est peut-être là, je sais pas, entre cette musique anglo-saxonne où j'estime qu'il y a quand même toujours une lumière, et puis les racines de la chanson française qui sont quand même... où on va dire que le sombre est assumé, quoi.
Et puis ouais, enfin j'ai entendu, c'était sur une autre radio, des gens qui disaient aussi dans la langue française, le drame est beau.
Ah ouais.
Et que c'était très dur le drame est bon français, c'est Villon,
Bien sûr.
Baudelaire,
toute la veine romantique aussi,
Et en fait, c'est très dur de faire des choses plus positives. Alors, j'ai pas fait des études de lettres, mais je crois que t'en as fait, par contre. Donc, je sais pas ce que t'en penses.
J'en ai fait. Bah oui, je suis assez d'accord. Après, moi, tu sais, j'ai travaillé, mon mémoire de maîtrise, il était sur Boris Vian. Et Boris Vian, c'est quand même l'exemple de ce mélange entre beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté et des choses très cocasses, absurdes, mais avec une noirceur dans le fond imparable, quoi. J'avais notamment bossé sur un livre qui s'appelle L'Arrache-Cœur. C'est noir de chez noir, quoi. Et ça m'avait beaucoup plu. À côté de ça, il y a de l'humour, il y a des choses très subtiles et absurdes, mais c'est quand même très noir. La teneur est très très noire. Et je pense qu'il faut pas s'empêcher d'aller vers la mélancolie si on le sent, quoi. Moi après je suis en chanson, pour parler de la chanson, pour revenir là-dessus, je suis fan d'Alain Souchon, par exemple. Et Alain Souchon, je trouve qu'il réussit vraiment à traduire des choses profondes et parfois sombres avec beaucoup de légèreté, beaucoup de poésie, et c'est pas plombant pour autant, quoi.
Ouais,
j'aime bien ce paradoxe, en fait.
Et puis Souchon, c'est très humain aussi, Souchon.
Ah bah oui, il y a ce...
Et ce qu'on retrouve aussi chez toi, c'est quand même assez hauteur d'homme, ce que tu fais. C'est pas...
Je
sais pas si l'expression est hauteur d'homme, je sais pas si...
Bah si, ça me plaît vachement.
Ouais.
Ça me plaît vachement. On qualifie souvent mes chansons d'humaniste, en tout cas. Ouais.
Ouais.
Et ça me plaît, hein, parce que... C'est, encore une fois, c'est au centre de ma démarche, quoi. Ma démarche artistique, mais En fait, quand on fait un métier, c'est pas que le métier, c'est tous les à côté aussi. Et quand je suis en tournée, c'est pas que les concerts. Ce que je disais tout à l'heure, c'est les rencontres, c'est les liens qu'on tisse avec non seulement les gens qui viennent voir le spectacle, mais aussi les gens qui organisent. Et c'est un ensemble de choses qui font que le métier me plaît beaucoup, quoi, cette dimension humaine, justement. Et puis, dans mes chansons, ça se traduit aussi par des thèmes, comme tu dis si bien, à hauteur d'homme. Il y a beaucoup de portraits dans mes chansons aussi. Ouais. Donc c'est une manière d'aborder, si tu veux, des choses qui sont en apparence loin de moi, mais qui me préoccupent, en fait, en tant que comme et citoyen, quoi.
Et puis juste un truc qui me vient, c'était justement pour distinguer le côté Barbara Ferret, après Dylan et puis Nelly. Ouais. Après c'est des époques différentes, parce que Dylan il arrive à une époque où, je sais pas, on allait faire la révolution. Là,
ouais, ah bah, c'est sûr.
Et donc, enfin là-bas, c'est vu ce qui se passait aux États-Unis à l'époque, puis un peu partout dans le monde, il y avait aussi un souffle d'espoir.
Bah c'était des gens qui véhiculaient vraiment des idéaux. Dylan, ses premières chansons, c'est 62-63, Blow in the Wind, là, c'est 63, on est avant en 68, quoi, on est. Donc, ses chansons, il y a les germes de quand même d'une certaine révolution, et puis de la contre-culture américaine, quoi.
Cela dit, avant qu'il tombe après dans une sorte de cynisme, je sais pas si t'as vu le documentaire de Scorsese sur Dylan.
Alors, lequel, No Direction Home?
Ouais, c'est ça.
Ouais, j'ai dévoré, j'ai adoré ça.
Et en fait, non, quand on le voit, après c'est les s'électrifier, et
oui.
Puis il devient amer,
bien sûr.
Enfin il devient un peu cynique, quoi.
Ah ben Dylan il se caractérise aussi par son cynisme, c'est vrai. Il y a un autre documentaire qui est passionnant de lui qui s'appelle Don't Look Back, je sais pas si tu l'as vu.
Non, que je n'ai pas vu, non.
C'est dans les années 60, c'est un cinéaste qui s'appelle Penn Baker qui l'a suivi sur une tournée. Donc Dylan c'était vraiment l'époque où il était sur le toit du monde, il était vraiment très très connu et très reconnu. Et on perçoit effectivement ce cynisme dans ses interviews, dans sa façon d'être et dans sa façon d'appréhender le métier. C'est assez glaçant. C'est un personnage ambigu, mais moi, ses chansons m'embarquent, quoi. Sa voix, ses textes. Mais c'est un personnage controversé quand même, ouais.
Et donc, ouais, donc ça t'a nourri, ouais. Et toi, je revenais là. Mais bref, je propose qu'on revienne, qu'on écoute une deuxième chanson. Donc, j'ai sélectionné un duo qui figure sur le dernier album. Ça s'appelle Tant qu'il y aura des hommes. C'est duo avec Ken, que tu connais bien, avec qui tu as travaillé plusieurs fois.
Ouais, ça me permet de faire un clin d'œil à mon ami Kent, qui est un chanteur, c'était le leader de Starshooter à Lyon, un groupe lyonnais des années 70-80. Et Kent, moi je l'écoutais, en tout cas mon premier rapport avec lui, c'était un rapport d'auditeur, puisque j'écoutais ses albums en boucle quand j'étais étudiant, notamment un album, un live qui s'appelle Kent en scène, qui date de milieu des années 90, enregistré à la Cigale, et qui est un album fondateur pour moi, au même type que des Souchon, des Lavilliers, des Renault, Higelin, Charles Ely, Bachung, tu vois. Et il y avait Kent dans mon panthéon, on va dire, des gens qui m'ont influencé, quoi. Et les hasards de la vie et de ce métier ont fait qu'on s'est rencontrés il y a quelques années déjà, après un concert qu'il donnait au Marché Gare, je sais pas, il y a une dizaine d'années je crois, et puis on s'est rencontrés, le courant est bien passé entre nous, et on est devenus potes, quoi. On s'est invité aussi sur des scènes. Il m'a proposé de faire des premières parties, moi je l'ai invité lors de cartes blanches que j'avais. On a partagé des chansons de lui, des chansons de moi, des chansons de Léo Ferré aussi.
C'est extra, je crois.
C'est extra, c'est vrai, exactement. C'est un de mes premiers souvenirs de scène avec Kent. On a joué à Paris, à Lyon, et puis de fil en aiguille, nos liens se sont resserrés. Il m'a proposé gentiment, il m'a dit, quand il a su que j'étais en train de préparer cet album-là, il y a 2-3 ans, il m'a dit gentiment, si t'as envie que je prête ma voix sur une de tes chansons, ça sera avec plaisir. Donc ça fait tilt, bien sûr, c'était un grand cadeau qui me faisait, et tout de suite la chanson qu'on va écouter là, qui s'appelle Tant qu'il y aura des hommes, s'est imposée à moi. Elle était déjà écrite, composée, écrite, terminée, et quand il m'a fait cette proposition là, Kent, j'ai tout de suite pensé à cette chanson là, donc je lui ai proposé, je lui ai envoyé, et puis tout de suite il m'a dit oui. Il est venu l'enregistrer à Lyon très simplement, avec tout son talent et sa simplicité, et c'est une belle rencontre. On a fait un clip il y a pas longtemps sur cette chanson.
Ah, d'accord.
Et on l'a tourné à Lyon. C'était un super souvenir aussi. Et voilà.
Le clip, on peut le voir où ?
Eh ben, c'est sur YouTube.
YouTube, Frédéric Bobin,
ouais.
Kent.
Ouais, on tape Bobin, Kent, tant qu'il y aura des hommes, et on tombe dessus. Ouais, c'est un clip que j'ai fait. Le scénario a été signé par Denis Rivet, que tu connais
oui,
sûrement,
oui,
qui est chanteur,
que j'ai reçu.
Pote. Et puis il a été réalisé par Loïs M, qui a travaillé avec Shootit aussi, qui est un super réalisateur, quoi.
On écoute ?
Ouais.
Donc, tant qu'il y aura des hommes, Frédéric Bobin et Kent.
Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des villes en flammes, des tours de Babylone, des forêts de napalm. Il y aura d'autres croisades, il y aura d'autres prisons. Il y a qu'à changer les dates, il y a qu'à changer les noms. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des représailles, des peines maximum et des nuits de cristal. Des guerres de 100 ans, des guerres de 6 jours, des fontaines de sang et des comptes à rebours. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des filles maudites, des routes qui mènent à Rome, des couleurs interdites. Il y aura des kamikazes et la loi du talion. Il y aura de l'eau dans le gaz, des gazelles et des lions. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Seul poète qui vole vers l'azur,
mais pour un seul prophète qui fait trembler les murs,
et pour un géranium qui pousse dans les charniers,
tant qu'il y aura des hommes,
on pourra espérer.
Frédéric Bobin sur Radio Canu avec la chanson Tant qu'il y aura des hommes, donc en duo avec Kent. Tu veux parler de cette chanson ? Redire quelque chose sur le texte, par exemple ?
Oui, déjà ça me fait très plaisir de réécouter la voix de Kent. Ça me fait toujours du bien. Kent, à propos de cette chanson, il disait avec humour que c'était un tube nihiliste. J'avais bien aimé cette expression. Ben, c'est une chanson. Après, je trouve que tout est dans le texte. Hein. C'est toujours dur d'en parler parce que j'ai l'impression que c'est une chanson quand même assez limpide. Une énumération, une évocation de tout ce que l'homme peut faire de pire, malheureusement. Donc, cette dimension-là, quoi. Mais avec cette lumière là dont tu parlais à la fin de la chanson, il y a une lumière qui pointe quoi, qui dit que l'homme malgré tout il est capable aussi de belles choses. Et puis c'est un hommage à l'artiste aussi, cette chanson là. Puis ça finit sur cette image là du poète qui transcende la laideur ou la dureté du monde, qui peut la transcender en quelque chose de beau finalement, et ça nous met du baume au cœur quoi. C'est un peu ce que j'ai voulu traduire dans cette chanson. Je précise quand même que toutes les chansons, je les écris avec mon frère Philippe.
Oui, j'ai
oublié dans la présentation tout à l'heure, c'est quelque chose de fondamental.
J'allais y venir, donc ouais, on peut en parler. Comment on est les chansons, c'est des chansons à quatre mains, il faut le dire.
Exactement. Donc en général, c'est même mon frère Philippe qui signe les textes. Et moi la musique, même si évidemment les rôles sont un peu mélangés, et il m'arrive de terminer des textes et lui de finir des musiques. On est vraiment dans un échange constant quand on crée, de plus en plus d'ailleurs. Et c'est une, en fait chaque chanson de mes albums sont co-signées, en fait sont signées à quatre mains, ouais, comme tu le dis, avec Philippe, mon frère.
Et puis donc, ouais, comme tu dis, il y a un ping-pong,
ouais,
il t'envoie, et puis par exemple, tu m'as dit la dernière fois, donc là, sur le dernier album, Les Larmes d'Or, il y a 12 chansons,
oui.
Vous aviez 40 chansons...
Ouais, on a beaucoup créé pour cet album.
Ouais.
On a beaucoup jeté aussi.
Et puis, puis des chansons qui peuvent peut-être réapparaître plus tard.
Écoute, on verra. Là, justement, cette période du confinement nous a permis à Philippe et à moi de nous remettre dans une dynamique de création, ce qui était un peu difficile ces dernières années, vu que je tournais beaucoup. Et du coup, il y a beaucoup de nouvelles chansons qui sont nées là ces derniers mois. Et effectivement, à chaque fois, le panel est grand, on crée beaucoup, mais il y a beaucoup de ce que j'estime être du déchet, donc je jette beaucoup. Moi, j'ai pas de scrupule à jeter. J'aime bien aller au bout de l'idée, si tu veux, de finir une chanson, même de l'arranger, de faire une maquette qui est assez aboutie, on va dire, et puis au final de pas la garder, parce que il faut vraiment que la chanson, je l'assume à 200% et que je l'aime suffisamment pour la graver et pour la chanter sur scène après. Quoi.
Ouais, puis pour la porter sur scène aussi,
vraiment,
ouais, parce
c'est fondamental.
Il y a aussi, t'es dans un registre très authentique, c'est-à-dire que t'assumes à 100% ce que tu chantes.
Ouais, quoi. Vraiment. Et dans la mesure où c'est des chansons coécrites, où ce sont pas forcément mes mots à chaque fois, il faut vraiment que j'assume très fort les textes, ouais.
À noter que, en fait, quand Philippe, ton frère, enfin, c'est quand même toi qui, même s'il écrit, c'est plutôt lui qui écrit les textes.
Oui, c'est lui qui écrit.
C'est toi qui met le point final quand même à la.
Oui, c'est ça. C'est ce que ça me semble juste de dire ça, ouais. Parce que après, sur les musiques, je suis musicien, je compose les chansons et c'est souvent lui, par contre, qui met le point final, quoi, en disant, bah là, c'est bon, quoi. Là, on peut s'arrêter, parce que si moi, ce que je trouve difficile en tant que créateur, c'est d'avoir les idées, c'est une chose, si tu veux, d'avoir des idées et de créer, c'est une chose, quoi, mais c'est difficile de se dire le moment où c'est fini, en fait. On estime qu'une œuvre, enfin, le mot est grand, œuvre, mais bon. Voilà, à partir de quand on peut dire qu'une chanson est finie, ou un film est fini, ou qu'un roman est fini, ouais. On a toujours la tentation de retoucher à ça. Je lisais un truc hier sur Massive Attack, qui est un groupe que j'ai beaucoup beaucoup écouté dans les années 90 là, et ça me rassurait parce que sur l'album Mezzanine, je sais pas si tu connais cet album, qui est un super album, bien
sûr, magnifique, mais qui est d'une noirceur
qui est très noir, et je sais plus qui disait ça, un des membres du groupe qui disait, mais à chaque fois qu'on terminait un album Massive Attack, on était complètement déprimé parce qu'on avait toujours la tentation de retoucher un arrangement, la chanson, quoi. C'est jamais fini, en fait, et ça m'a consolé de lire ça de la part de grands artistes comme ça. Et moi, c'est pareil, quand une chanson, quand on se dit qu'elle est finie, il y a toujours la petite voix qui nous dit, bah ouais, mais est-ce que tu pourrais pas faire mieux quand même sur ce couplet là, sur, tu vois, c'est infini. Mais je pense il y a une certaine sagesse aussi à se dire que bon, bah là, c'est fini, on peut pas faire mieux, et puis faut faire autre chose, quoi, faut faire une autre chanson.
Et
derrière,
Et puis il y a tout aussi le travail du studio, de la, la réalisation artistique, voilà, ouais. Où en fait, c'est, enfin, tu me disais que c'était compliqué pour les arrangements aussi, de choisir la, enfin, de fixer une chanson. Et, alors c'est un autre travail que tu fais quand tu enregistres l'album.
Moi j'aime bien aussi. Ouais, ça c'est la deuxième phase après la phase de création avec mon frère. C'est la crasse de la phase de création. Que je fais pas tout seul quand même, mais j'aime beaucoup m'y impliquer vraiment profondément dans cette phase-là, ça me passionne, mais je le fais, je suis entouré par des super musiciens, par Michael Cointepa notamment.
Qui est déjà venu avec Vesperland.
Magnifique. Magnifique projet de Michael. Et puis avec Marc Arrigoni, qui a un studio qui est juste en face d'ici, d'ailleurs. Et donc tous les trois, on a travaillé à la réalisation du dernier album. Et Mais comme on le disait, là, c'est infini, en fait. Voilà. Le tempo, la tonalité, les instruments, l'interprétation, il y a plein de paramètres qui font que l'arrangement d'une chanson est infini. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut savoir mettre un point final, c'est difficile, mais c'est ça aussi, la création, créer, c'est choisir, quoi. Et choisir, c'est renoncer. Donc, c'est tout un travail que j'arrive quand même à bien faire au fil du temps. C'était difficile pour moi il y a quelques années, mais j'ai l'impression qu'au fil des albums, je lâche un peu, quoi. Il faut un peu lâcher, je crois. Mmh. Aussi, il faut savoir lâcher et voilà.
Et pour enregistrer, juste pour les gens qui ont pas de notion de ce travail, mm-hmm. pour enregistrer, mettre en boîte, c'est un vilain mot, mettre en boîte.
Ouais, mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire.
Un album comme Les Larmes d'Or, ouais. Où il y a 12 chansons, ça te prend combien de temps?
Je sais plus,
En comptant les arrangements et tout, enfin.
Ça m'a pris un an, je crois.
D'accord.
Ouais, ça m'a pris un an, mais après, moi, je suis assez lent dans la. Je peux faire une chanson très rapidement, mais pour choisir l'arrangement, je vais être assez lent parce que j'aime bien tâtonner, quoi, aller dans des directions différentes. La chanson Tant qu'il y aura des hommes qu'on écoutait tout à l'heure, la première version entre guillemets, elle avait un arrangement beaucoup plus très différent en tout cas, un peu plus rock, quoi, on va dire. Et là, il y a eu l'idée d'Hélène Piris, qui est une musicienne. Qui travaille sur l'album au violoncelle, elle a trouvé un riff qui a débloqué les choses et on est parti de ce riff pour construire l'arrangement, l'habillage musical autour. Donc tout ça pour te dire que chaque chanson, ça a été un peu long pour trouver l'habillage musical qui m'allait vraiment, quoi. Et puis j'aime bien prendre mon temps pour enregistrer un album parce que j'ai des expériences de mes premiers albums, mes tout premiers.
Que t'aimais pas.
Que je n'assume plus complètement. Ouais. C'est des albums que j'ai fait très vite, en fait. Ouais. Et tout le monde n'est pas Bob Dylan, quoi. Hein. Dylan, il faisait, ou les Beatles, quoi, il faisait des chefs-d'œuvre comme ça en quelques jours. Et moi, je suis plutôt un laborieux en studio. J'aime bien prendre mon temps, prendre le temps de me tromper aussi, revenir sur des pistes que j'explore et me donner du temps pour la réécoute aussi. Et voilà, donc pour moi le temps du studio, c'est un temps qui doit être étiré, en fait, qui doit être c'est pourquoi j'ai mis un an pour faire cet album, quoi. Okay. Mais c'est pas chaque jour, hein, bien sûr, parce que entre temps il y a les tournées, il y a les concerts, il y a plein de choses.
Je te propose qu'on reste sur l'album Les Larmes d'Or, qui est ton dernier album, et qu'on écoute la chanson La vie qu'on aurait pu vivre. Frédéric Bobin sur Radio Canu.
Une maison verte sur les vagues. D'enfants s'échappant du verger, et à ton doigt cette bague que j'aurais pu glisser. Tant de nuits occupées à faire l'amour dans un présent figé comme un tableau, un voilier au fil des jours, tranquille sur les flots, tranquille sur les flots. Pas regretter quoi qu'il arrive, la vie qu'on aurait pu vivre, la vie qu'on aurait pu vivre. les sourires qui n'ont pas su vieillir, tous les serments qui n'ont pas su nager. Une boîte à souvenirs, trop vite refermée. Tous les itinéraires envisagés, toutes les valises qui rêvaient de partance, tous les possibles trajets, comme des lignes de chance, comme des lignes de chance. Faut pas regretter quoi qu'il arrive, la vie qu'on aurait pu vivre, la vie qu'on aurait pu vivre. Que sont nos amoureuses devenues, qu'on a connues trop tôt et mal aimées. Dans nos vies, on s'évertue à suivre nos baisers, à suivre nos baisers. Et à regretter quoi qu'il arrive, la vie qu'on aurait pu vivre, la vie qu'on aurait pu vivre. Oui, à regretter quoi qu'il arrive, la vie qu'on aurait pu vivre, la vie qu'on aurait pu vivre.
Frédéric Bobin avec la chanson La vie qu'on aurait pu vivre, extraite toujours de son dernier album Les Larmes d'or. Tu veux évoquer cette chanson, Frédéric Bobin?
Ah oui, la petite anecdote, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai appris que cette chanson avait été diffusée aux États-Unis. Ouais, et ça m'a fait plaisir. C'est un animateur qui s'appelle Charles Spira, qui a une émission qui s'appelle Bonjour Chanson, sur la chanson française. À Baltimore, je crois, aux États-Unis, là, il a diffusé cette chanson il y a quelques jours. Et c'est drôle parce que forcément, la chanson est en anglais, quoi. Enfin, l'émission, pardon, est en anglais. Et il traduit, il a adapté en anglais le premier couplet de la chanson, quoi. Donc ça m'a amusé d'écouter ça, quoi. C'est pour le clin d'œil, c'est sympa. Quand les chansons voyagent, ouais, c'est toujours émouvant, et même pas si loin d'ailleurs, hein. Quand elles voyagent, je sais qu'il y a pas mal d'artistes là qui reprennent mes chansons, et ça me fait super plaisir. Enfin, des artistes ou des personnes même dont c'est pas le métier d'ailleurs. C'est pas une question que ce soit des artistes ou non, mais quand mes chansons sont chantées par d'autres, que ce soit dans des ensembles polyphoniques ou des gens chez eux tout seuls avec leur guitare et tout, c'est toujours très très émouvant en fait, quand les chansons voyagent.
Et voilà. Puis oui, on peut, c'est un peu bizarre d'en parler en ce moment, mais si justement on peut en parler, on peut aussi parler de la situation des artistes. Il y a aussi les concerts, parce qu'en fait toi tu tournes énormément, t'es sans arrêt sur la route.
Ouais, j'aime bien, ouais.
Faut dire que, je vois, moi aussi, je te laisse en parler peut-être. T'es un drogué de la scène, on peut dire aussi.
Ouais, c'est vrai. Dylan, il a cette expression que j'aime bien, là, c'est le never ending tour. Et c'est-à-dire qu'il est toujours sur la route. Et j'aime bien ce never ending tour, c'est la tournée qui n'en finit pas, quoi. La tournée est sans fin, quoi. Et je me sens un petit peu dans cette dynamique depuis quelques années. C'est-à-dire que je suis toujours sur la route parce que, en effet, c'est quelque chose qui me porte, qui me nourrit énormément. L'aspect rencontre. Avec les gens, et puis les albums ils viennent quand ils viennent, quoi. Je suis pas dans une logique où l'album sort puis je fais la promo, je suis en tournée, après je me retire pour écrire, puis je sors. Donc je suis toujours en tournée, puis l'album il tombe quand il tombe, quoi. Et voilà, donc je suis toujours sur la route, et là forcément il y a eu un repos forcé, quoi, ces derniers mois, bien sûr. Et ça m'a permis de non seulement de me reposer, mais de me recentrer aussi, d'écouter de la musique, de lire, et puis surtout de me remettre dans une dynamique de création avec mon frère, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc on a fait plein de chansons là ces temps-ci qui vont sans doute faire l'objet d'un prochain album, sans doute qui verra le jour l'année prochaine.
En
2021, je pense.
En 2021,
ouais, je pense. On va dire dans un an, quoi. Dans un an.
Et donc, ouais, malgré le confinement, parce qu'il y a des gens, j'ai eu des artistes au téléphone qui me disaient qu'ils étaient stressés et
ouais,
qu'ils n'arrivaient pas à écrire.
C'est fascinant, en fait. Parce
et
que,
donc, ouais. Par contre, je sais pas si tu connais André Bonhomme.
Bien sûr.
Il a écrit 10 chansons pendant le confinement.
Génial,
et donc,
hein,
et toi?
Bah, moi, pareil, avec mon frère, on a fait plein. En fait, ce qui est fascinant, c'est voilà, chacun réagit comme il peut, quoi, et c'est toujours très différent. Et il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont posté des chansons une par jour.
Ouais.
Mon ami Kent, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, il a fait une chanson par jour, quoi.
D'accord.
Toujours à la même heure et tout, il postait une chanson, souvent une chanson de son répertoire, qu'il revisitait à voix guitare, mais il a fait du Bowie, du Christophe, du Scheller, mais surtout ses chansons à lui. Et c'était super. Cabrel a fait ça aussi, et j'ai plein de potes qui ont fait ça. Et moi, j'ai pas du tout ressenti ce besoin-là. J'ai dû faire une chanson que j'ai postée juste pour dire coucou aux gens qui me suivent et pour dire que tout allait bien. Mais moi, mon urgence à moi, elle était dans la création. Mmh. Ça m'a permis de un peu de, à mon avis, de m'isoler et de me préserver de cette situation qui était quand même, enfin qui reste quand même très préoccupante. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de geste de survie presque. Voilà, une espèce de, comme un instinct de survie qui m'a poussé donc à beaucoup beaucoup créer, à me mettre dans cette bulle créatrice.
D'accord. Et puis à noter que si on peut pas être sur scène, il y a plusieurs formules.
Oui, il y a plusieurs formules de scène. Je suis parfois en solo, mais la plupart du temps, je suis en duo. Et j'ai trois duos en fait. Depuis longtemps, j'ai un duo avec Mickaël Cointepa, qui m'accompagne à la contrebasse, qui a un super projet Vesperland dont tu parlais tout à l'heure, des chansons, des poèmes anglais ou américains qu'il met en musique et qu'il chante. C'est magnifique. Et avec lui, on travaille depuis plus de 10 ans ensemble, en fait. C'est lui qui tient la batterie aussi sur mes albums. Donc, contrebasse, guitare, j'ai un autre duo avec Hélène Piris au violoncelle et au chœur. Hélène qui joue aussi sur le dernier album, Les Larmes d'Or. Et puis, j'ai un nouveau duo depuis pas très longtemps avec un guitariste qui s'appelle Clément Soto, qui joue guitare électrique, guitare acoustique et puis un peu de la basse. Donc ces trois duos voilà, me permettent de revisiter mes chansons, et ce qui fait qu'il n'y a aucune monotonie malgré le grand nombre de dates que j'effectue chaque année. Voilà, les duos me permettent vraiment de revisiter les chansons. C'est sympa, quoi.
Ouais, tu me disais que la dernière fois, comme tu connais très bien les musiciens avec lesquels tu joues,
oui,
t'as une marge de manœuvre. Et,
ouais, vraiment. Ouais. Très agréable, très appréciable, ce qui me permet parfois de faire des listes de chansons et puis de pas forcément les suivre, parce que le moment de scène dicte autre chose, on va dire. Et je peux me reposer sur eux, vraiment les yeux fermés. Et puis la formule duo permet cette petite improvisation quand même, que c'est pas comme quand on est accompagné par 4 ou 5 musiciens. Là, le duo permet vraiment cette flexibilité, cette impro, et à laquelle je suis sensible. J'aime bien.
Je te propose qu'on revienne sur l'album Singapour.
Ah ouais, on va faire un petit bond dans le temps.
Et qu'on écoute une chanson que j'adore qui s'appelle Ce siècle avait 2 ans.
Allez, avec plaisir.
Frédéric Bobin, Ce siècle avait 2 ans.
Ce siècle avait 2 ans, souvenir plein la tête. Je vous parle d'un temps que vous devez connaître. C'était le temps de Zidane et d'Amélie Poulain. Les ruines de Manhattan fumaient encore au loin. Mais surtout c'était le temps de nous deux, de nos yeux se croisant silencieux. Les livres d'histoire n'y verront que du feu. Chantait sa dépression. Le seigneur des anneaux déchaînait les passions. Le temps des émissions, caméra dans les coins, et voilà Tartempion, idole jusqu'à demain. Mais surtout c'était le temps de nous deux, de nos doigts se frôlant malicieux. Les livres d'histoire n'y verront que du feu. C'était le temps de Chirac à 80%. C'était le temps où l'Irak nous semblait menaçant. Le temps des étudiants, futurs intérimaires, blottis jusqu'à 30 ans dans les jupes de leur mère. Surtout c'était le temps de nous deux, de nos corps s'enlaçant, délicieux. Les livres d'histoire n'y verront que du feu. Ce siècle avait 2 ans, souvenirs plein la tête. Je te parle d'un temps où j'ai pu te connaître. On n'était pas Zidane, ni Amélie Poulain, juste deux cœurs qui planent dans un monde incertain. Ce siècle avait 2 ans, ce siècle avait 2 ans, ce siècle avait 2 ans, ce siècle avait 2 ans.
Frédéric Bobin avec la chanson Ce siècle avait 2 ans, donc ça on est enfin un petit bond dans le temps.
Ah ouais, quand même. 2008.
Ouais, 2008. C'est ton déjà. Album Singapour.
Ouais. Ouais.
Et donc il parle de l'année 2002 où
exactement.
C'est passé plein de trucs.
Ouais, exactement.
Notamment quand Renaud chantait sa dépression.
Oui, c'est ça. Et il la chante toujours d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Ouais, c'est une chanson qui parle de la petite histoire qui se mélange avec la grande histoire. Ouais. Ce siècle avait 2 ans.
Et tu m'avais dit la dernière fois, parce que t'as fait une date à l'Olympia, où t'as,
ouais.
Où t'as pu. Où tout le public reprenait cette chanson.
Ouais, c'était hyper sympa, vraiment. C'est un moment très émouvant. Ouais. J'ai eu la chance de faire une première partie à l'Olympia il y a 2 ans, je crois. Première partie de Gauvin Cerce, un ami chanteur qui m'a invité donc, à ouvrir la soirée. Il y a 2 ans, je crois. Et puis j'ai fini mon set par j'ai joué une demi-heure. Hein. Et à la fin de mon set, il y avait cette chanson-là. Et j'ai coutume de faire chanter les gens à la fin, comme c'est une chanson facile, comme ça, avec le refrain qui revient. Et c'est vrai que j'ai été ému de par ce moment en fait, de l'Olympia qui reprend cette chanson en chœur. C'était un beau moment, quoi. Vraiment, très émouvant, très très émouvant.
D'accord, donc là il reste pas très longtemps, je te propose qu'on arrive sur un autre album qui est Le Premier Homme, avec et qu'on écoute la chanson Tatiana sur le périph.
Ok.
Petite erreur, je me suis trompé, j'ai mal calé la chanson. Et on écoute Tatiana sur le périph, Frédéric Bobin. Toutes mes excuses, Frédéric Bobin.
Ah, mais y a pas de...
Elle vient des plaines d'Ukraine où ne poussent plus les graines. Elle a laissé ses petits frères sous la centrale nucléaire. Elle rêvait de grands espaces. La voilà qui fait des passes, des billets pleins de soutifs. Tatiana sur le périph. Elle se tendine au feu rouge entre Vincennes et Montrouge. Et si loin de la toundra, elle se roule dans tous les draps. Elle accepte les rencarts, des toqués et des tocards, quitte à revoir ses tarifs. Tatiana sur le périph. Dans sa baraque de briques, son grand-père était moujique. Toute sa vie courbée l'échine sous le portrait de Staline. Puis un jour le mur se brise, on prépare sa valise, mais le même destin nous griffe. Tatiana sur le périph. Elle envoie de temps en temps de l'oseille à ses parents. Elle dit qu'elle est comédienne, elle leur écrit que tout baigne et qu'elle reviendra bientôt, les bras chargés de cadeaux, serment d'amour excessif. Tatiana sur le périph. Elle dit qu'elle les sauvera de la peste, du choléra, qu'elle construira des collèges dans ce grand désert de neige. En attendant, elle racole, les yeux embués d'alcool, mais le cœur encore naïf. Tatiana sur le périph. Elle vient des plaines d'Ukraine où ne poussent plus les graines. Elle a laissé ses petits frères sous la centrale nucléaire. Elle rêvait de grands espaces. La voilà qui fait des passes, des billets pleins de soutifs. Tatiana sur le périph.
Frédéric Bobin, donc, avec le morceau Tatiana sur le périph, extrait donc de l'album précédent qui s'appelle Le Premier Homme.
Ouais.
Ouais, c'est un des portraits que tu fais. Tu disais tout à l'heure que tu faisais des portraits dans tes chansons, c'est un des portraits.
Ouais, c'est un des portraits qui me tient à cœur. Ouais. C'est un portrait qui me permet d'aborder des thèmes qui me sont chers, quoi. Qui me permet de. Voilà, de me. D'aborder l'immigration, la condition tragique de certaines femmes, et puis de mettre dos à dos le système communiste et capitaliste aussi, au passage, quoi. Ouais.
D'accord, là on va prendre le temps de faire ta communication.
Oui.
Alors,
j'allais oublier.
je vais faire un teaser. On va se quitter sur la chanson titre du précédent album qui s'appelle Le Premier Homme. Mais avant, on veut tout savoir, Frédéric Bobin, alors, pour te retrouver.
Alors, j'avais énormément de concerts prévus, ouais. Bien sûr. Donc, tout ça est, pour la plupart des dates, elles sont reportées à partir de l'automne prochain, sur la saison prochaine là. Le 14 juin, il y a un truc important et sympa, c'est la salle Agendar qui organise un concert où je serai donc en duo avec Hélène Piris, avec mes chansons. Un concert d'une heure que je vais donc faire à Agendar, mais forcément, comme la salle est fermée, vu le contexte, le concert sera retransmis sur Internet, voilà, sur le Facebook de la salle Agendar. Et ça sera le 14 juin, c'est un dimanche à 19h. L'heure est à vérifier, je sais plus si c'est 18 ou 19, je crois quand même que c'est 19h. Donc ça va être un moment à la fois singulier quand même, parce que ça va être un concert qu'on va faire quasiment à huis clos, mais qui sera retransmis sur le net, quoi. Donc ça va être sympa. Et je salue Agendar et je les remercie pour cette invitation. C'est une des salles dont je parlais tout à l'heure, quoi. Une des salles qui m'accompagne en fait depuis le début de mon parcours, quoi, au même titre que À tout bout de champ, la salle des Rancis, la MJC Léo Ferré au Vieux-Lyon. Et Agendar, elle fait vraiment partie de ces salles qui font un boulot super, un boulot de terrain qui donne l'occasion aux jeunes artistes de s'exprimer. Et puis voilà, donc rendez-vous le 14 juin pour mon concert à Agendar sur Internet.
À noter, bon, pour te suivre, le mieux c'est...
C'est mon site ouais. Officiel, c'est tout bête, frédéricbobin.com. Voilà, il y a les dates, il y a les vidéos et des choses à écouter, la biographie, tout ce qu'il faut. Puis sur Facebook aussi, j'ai une page artiste, et puis une page aussi à mon nom, mais perso, mais qui parle de mes activités artistiques. Et Instagram aussi, je suis un peu moins... actif sur Instagram, mais c'est surtout Facebook et puis mon site. Et puis YouTube aussi, évidemment.
Oui, il y a des clips à
donner. Voilà, il y a le clip avec Kent qui est sorti il y a quelques mois.
Oui, puis donc tu viens de le dire, tes albums sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming habituelles.
Ouais, vraiment, on peut les écouter, les acheter, Deezer, Spotify, etc. Ouais.
Il y aura un podcast de cette émission plus tard demain dans la journée sur les blogs de Radio Canu à la rubrique musique, etc. Donc l'émission de ce jour avec Frédéric Bobin. Je mettrai les liens vers ton site et puis vers ton Facebook. Voilà. On répète peut-être la date du concert Internet.
Oui, c'est le 14 juin, dimanche 14 juin. Donc, à 19h, je crois, 18 ou 19h.
À vérifier. Le mieux, c'est on vérifie sur ton.
Sur le Facebook.
Tu vas communiquer dessus.
Ouais, carrément. C'est avec la salle Agendar qui se trouve dans le 4e à Lyon.
D'accord.
Sur le plateau de la Croix-Rousse.
Eh bien, merci beaucoup, Frédéric.
Merci, Guillaume, c'était un plaisir.
Un plaisir partagé.
Vraiment.
Et je te propose qu'on se quitte avec la chanson qui donne son nom à ton précédent album. Ça, c'est la chanson Le Premier Homme.
Ok.
Tu veux en dire un mot ou on l'écoute?
On l'écoute, c'est encore le mieux.
D'accord.
Je te remercie, en tout cas, pour ton invitation.
C'était Frédéric Bobin. Et on écoute Frédéric Bobin. Et c'était Musique, etc. avec Frédéric Bobin.
Avec des filles dociles, je suivais les cadors, les idoles de la ville, et leur voix de stentor, leur sirène futile. Et puis tu es venu dans mon capharnaüm. Je me sens comme le premier homme. Je me sens comme le premier homme. Dans les îles au trésor, j'accostais triomphant à Sodome et Gomorre, je me saoulais de boucan. Toute voile dehors, la fièvre dans le sang, je bronzais sans effort sous le soleil de Satan. Et puis tu es venu dans mon capharnaüm. T'as mis mon cœur à nu. Je me sens
C'était musique, etc. Première partie avec Frédéric Bobin. Je vous mets l'identifiant de l'émission. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie avec Kebux et Crass dans un instant. Mais pour l'instant, l'identifiant du générique.